Mission Sicile, podcast by Tendance Ouest.
Bienvenue dans Mission Sicile, le podcast de Tendance Ouest qui vous raconte l'histoire des Normands partis chercher la fortune et l'aventure dans l'île italienne. Épisode 4, on passe maintenant aux traces encore vivantes et comment les Siciliens font vivre cet héritage. Premier exemple avec Giovan Battista Caruso, il est conseiller à la culture à la mairie de Paterno, c'est une commune à l'est de la Sicile.
À Paterno, nous avons un donjon, c'est de l'année 1072. Cette année, nous avons fêté le 950e de sa construction par Roger le Premier, par Roger Rann. Elle est en parfait état de conservation. C'est un château qu'il garde l'Etna. Il a une très jolie vue de l'Etna. En bas, il y a le rive Simeto, qui est le plus important rive de la Sicile.
C'est important pour vous de conserver ce patrimoine?
Oui, c'est de 1072, et j'ai dit c'est en très bon état de conservation. Il est parfait, comme il a été construit en 1072, parce qu'il a été construit en pierre, et la pierre est beaucoup résistante, elle a résisté au tremblement de terre, elle a résisté au bombardement, parce que la Sicile, les Anglo-Américains, qu'ils ont libéré la Sicile, ils ont bombardé Paterno, il a été médaille d'or pour la résistance civile. Il a aussi résisté, le château il a résisté au bombardement des Anglo-Américains. Donc il est bien construit.
Il y a donc le patrimoine, mais il existe aussi toutes les traces qui sont beaucoup moins palpables. Petit exemple avec Iri De Balanti, elle est professeure de linguistique à l'université de Catane, là aussi une commune à l'est de la Sicile.
J'ai vu que les Normands ont laissé beaucoup de mots dans les Siciliens. Et donc j'ai publié un vocabulaire de presque un milliard de mots qui vient aux Siciliens de l'ancien Normand et qui sont les mêmes mots qui sont passés aussi à l'anglais. Et alors nous avons les mêmes mots et désormais il est impossible de les connaître mais parce qu'ils sont Siciliens en effet. Mais ils sont d'origine normande.
Est-ce que vous avez un ou deux exemples comme ça de mots?
Alors, par exemple, vous avez les mots gâteau. Alors, dans les Siciliens, pour appeler une forme de pain, on dit pain, oui, on dit guastella. Et aujourd'hui, on dit aussi Bastella, mais c'est l'ancien français, l'ancien normand, Wastel, qui conserve en sicilien la forme ancienne du français. Ou par exemple encore, je pourrais vous dire les mots Chavrel. L'ancien français chavrel, c'est-à-dire les petits de la chèvre, aujourd'hui est chevreau. Mais dans l'ancien français, est chavarel, et nous avons dans les Siciliens chavareddu. Nous n'avons pas la conscience qu'ils sont des emprunts de l'ancien français, du normand, etc. Mais ils sont en effet ça.
C'était l'ensemble Alcantara, Canto di Carnavale de l'album Abalati, chant et musique de la Sicile médiévale. Et puis, il y a aussi des restes de droit normand. Et oui, et la plus à même d'en parler, c'est Sophie Poiret. Elle est professeure d'histoire du droit à l'université de Caen et elle enseigne le droit normand.
Alors, le droit normand qui s'est appliqué en Normandie depuis les origines du duché en 911 jusqu'à la Révolution française et même à la promulgation du Code civil s'est appliqué également dans Sicile. Non pas la coutume elle-même, parce que la coutume normande, elle s'est cristallisée véritablement, on dit, au milieu du XIe siècle, sous le règne de Guillaume. Et ensuite, elle a été mise par écrit dans un premier traité à la fin du XIIe siècle. Donc ce qui est en Sicile, ce qui est appliqué en Sicile, ce n'est pas la coutume elle-même ou un traité de droit, mais il est évident que les hautes villes, en s'installant en Sicile, ont importé des règles, notamment successorales, qu'ils connaissaient. Il existe une règle successorale qui s'appelle le parage normand et qu'on retrouve en Sicile. C'est le fait, lorsque le père meurt, c'est le fils aîné qui va avoir sous son autorité toute la famille et également la maîtrise des biens de la succession jusqu'au partage. Cette règle du parage, on la retrouve en Sicile. Il y a aussi un mode de gouvernance qui est assez commun à Guillaume, Henri Ier et son fils, mais aussi à Roger II, avec une grande tolérance, justement, une volonté de pacification. Et on retrouve donc ces caractéristiques toutes normandes, l'idée d'égalité aussi. Par exemple, en Normandie, il n'y a pas de servage. Tous les hommes sont libres. Alors, ça vient peut-être des Vikings, voilà, qui étaient tous compagnons, comme on le sait. Ça vient aussi de la précocité de la coutume normande, qui fait que lorsque la coutume s'est cristallisée, elle n'avait pas encore dégagé un droit noble, d'un droit roturier. Mais on retrouve aussi ces caractéristiques en Sicile.
Podcast by Tendance Ouest.
Sur la tolérance, en fait, les Normands, j'ai l'impression que, de ce que vous dites, que c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Sicile, c'est le cas même en Normandie. Mm-hmm. C'est une espèce de pragmatisme pour réussir à régner et diriger. C'est ça un petit peu la philosophie du Normand.
Oui, il y a un grand pragmatisme et surtout une volonté de ne pas imposer des règles à des populations différentes, mais au contraire de justement les juxtaposer ou emprunter ce qui peut être utile à d'autres systèmes. Par exemple, on voit bien en Normandie que les Vikings, en fait, ont surtout imposé le droit scandinave dans les matières qui n'étaient pas connues par le droit carolingien, notamment le droit maritime, tout ce qui est droit de varech, droit des baleiniers, droit sur monopole des poissons gras qu'on peut trouver, qui est un monopole ducal. Mais pour le reste, ils ont vraiment emprunté au système carolingien. Et on retrouve ça en Sicile aussi, avec justement cette coexistence byzantine, musulmane et normande.
Ces traces normandes, on les retrouve aussi dans les traditions populaires. Et ça, c'est le dada de Jean-Marie Lévesque, le directeur des musées de Normandie à Caen.
Un des meilleurs exemples, c'est la question du spectacle de marionnettes. Si on demande aux Siciliens est-ce qu'il y a des éléments de l'histoire de normande dans le spectacle des marionnettes, ils vont nous dire mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de personnage normand dans le répertoire du spectacle des marionnettes et ça n'a rien à voir. Et si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que dans le spectacle des marionnettes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une histoire qui est liée à la chanson de Roland et à l'histoire des paladins de Charlemagne. Or, qu'est-ce que c'est que la chanson de Roland ? C'était l'épopée la plus partagée par notamment les Normands. La première version couchée par écrit de la chanson de Roland a été écrite en anglo-normand. Donc il y a un point de départ qui nous réunit, après qui prend des choses qui prennent leur chemin et leur propre autonomie et qui se transforment localement et qui ont leur propre évolution. Mais il y a des liens qu'on peut retrouver et qu'on peut recréer.
C'était Viva Ure d'Amori de l'ensemble Cétar. Dans la population, les Normands sont toujours et encore un petit peu là. Maria Francesca Martinez Tagliavia est directrice des musées de Palerme.
Nous sommes les descendants de Guillaume le Conquérant et nous sommes les descendants d'une histoire justement millénaire qui commence du coup avant le Moyen-Âge. Et donc nous sommes vraiment une partie de cette histoire royale en fait. et nous sommes vraiment les, nous en sommes les descendants.
Il y a aussi des restes dans la culture, dans la manière de vivre. Est-ce que ça, ça se voit ou pas? Pas plus que ça finalement.
Ça se voit.
Ce syncrétisme qu'ils ont mis en place, est-ce qu'on le retrouve encore un peu aujourd'hui dans ce, en Sicile ou pas forcément quand,
Oui, dans la manière de vivre, on le retrouve partout, on le retrouve dans les lettres. Moi, par exemple, je parle le français parce que j'ai une culture française, parce que c'est une tradition de la culture française qui arrive jusqu'à nous et donc dont j'ai moi-même hérité. Et donc voilà pourquoi je parle français. Et d'ailleurs, je suis moi-même une descendante de Guillaume le Conquérant par ma mère. Donc voilà, c'est assez... disons qu'il y a des généalogies qui signent, qui marquent la chose. Et moi, et probablement pas que moi, évidemment. Nous sommes Normands parce que nous sommes Européens, parce que nous avons participé à la construction de l'Europe. Et nous représentons cette ouverture, en fait. Et donc, bien sûr, dans l'architecture, dans la littérature... dans la culture en général, dans les lettres, dans la philosophie, dans les sciences humaines et sociales, dans l'art en général, nous sommes également normands en fait.
Et pour le futur alors, eh bien, la région Normandie veut créer un lien particulier avec les pays où les Normands sont passés, la Sicile donc, mais aussi l'Irlande ou encore le Royaume-Uni et le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Et pour ça, un point de départ, c'est en tout cas la vision de François-Xavier Priolot, c'est le vice-président de la région en charge de l'Europe et de l'international.
2027, ce sera une année autour de la Normandie, mais on a vraiment compris à quel point il est important de poser les fondations qui nous unissent, ces territoires qui ont ses racines normandes. Je veux parler de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Italie du Sud et de la Sicile et bien sûr de la Normandie. Et il y a plein de choses à imaginer au niveau éducatif, avec les universités, au niveau culturel, avec des projets de création. Faire en sorte finalement de faire vivre la Normandie, et on mesure à quel point on est dans une dimension européenne. C'est ça la véritable Europe, c'est que on partage ensemble une histoire commune et on a envie de se projeter dans l'avenir ensemble. Et donc 2027, c'est aussi le point de départ d'une sorte finalement de Commonwealth normand.
Merci d'avoir écouté Mission Sicile, le podcast de Tendance Ouest qui vous raconte l'histoire de la conquête de la Sicile par des Normands.